Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Directeur, c'est un honneur d'introduire cette quatrième leçon inaugurale, qui est aussi un hommage à Albert Cacault, un des très grands ingénieurs français du XXe siècle, un des illustres anciens élèves de cette école. L'école a souhaité donner son nom à cet amphithéâtre, qui, sans nul doute, marquera votre scolarité, et de même qu'elle avait donné son nom à l'amphithéâtre de la rue des Saints-Pères, qui est resté dans le souvenir de ses anciens élèves. Et je voudrais d'emblée saluer la présence parmi nos jeunes élèves et les personnels de l'école d'un certain nombre d'anciens élèves de l'école qui ont tenu à venir assister à cet hommage à Albert Cacault et dont quelques-uns ont été particulièrement actifs dans l'organisation de cet hommage. Alors, quelques mots sur le déroulement de cette matinée. Nous allons commencer par la leçon inaugurale qui sera prononcée par Antoine Picon, j'y reviens dans un instant. Puis, nous aurons le plaisir d'écouter un portrait d'Albert Cacault autour de son œuvre par le petit-fils d'Albert Cacault, M. Thierry Quérizel. Et ces deux présentations seront poursuivies par une table ronde au cours de laquelle nous écouterons un témoignage de René Maillère, qui a été particulièrement marqué par l'enseignement d'Albert Cacault à l'école des Ponts et Chaussées au début des années 50. Puis, deuxième temps, plutôt tourné vers l'avenir, avec un jeune élève, Quentin Martin Laval, un jeune ingénieur, Quentin Martin Laval, qui nous parlera de son projet, de sa création d'entreprise, actuellement hébergée dans les murs de l'école. Je reviens, et puis viendra le temps du débat à la fin de cet ensemble. Donc j'en viens à la leçon inaugurale d'Antoine Picon. Antoine Picon est ingénieur, architecte, docteur en histoire. Il est professeur et directeur de recherche à l'école des Ponts et Chaussées, mais aussi professeur à la Graduate School of Design à l'université d'Harvard. L'histoire des ingénieurs est l'un de ses champs de recherche. Qu'est-ce qu'un ingénieur ? Voilà le titre de sa conférence. Alors, je le remercie particulièrement de nous proposer de réfléchir avec lui à l'identité de l'ingénieur, un sujet, disons, particulièrement pertinent pour cette leçon inaugurale et aussi dans le cadre de cet hommage à Albert Cacault. Merci Antoine.
Vous m'entendez là ? C'est bon ? Bien. Tout d'abord, c'est un grand plaisir de prononcer, c'est peut-être la seconde leçon inaugurale que je donne dans cette école, je suis toujours aussi impressionné. Donc j'ai décidé de prendre un petit sujet, qu'est-ce qu'un ingénieur ? Alors la réponse, vous pouvez vous en douter, est loin d'être simple. Elle a en plus considérablement varié d'une époque à l'autre, et elle est aussi assez différente d'une région du globe à l'autre. Ce qu'on appelle ingénieur aux États-Unis, j'essaierai d'y revenir, est un petit peu différent, par exemple, du sens qu'on donne à l'ingénieur en France. Aujourd'hui encore, donc, l'appellation recouvre des réalités assez différentes, et cela d'autant plus que les ingénieurs occupent des fonctions très diverses, de la recherche, de la technique, au management. Alors, afin d'essayer de mieux cerner cette figure protéiforme, je voudrais commencer par remonter aux origines. En fait, on commence à parler d'ingénieurs vers la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Le terme, dérivé du latin « ingenium », renvoie en fait à toute une série de sens qui ne sont pas sans intérêt pour la question dont je suis parti. Alors, premier sens, et puis il convient pour des premières années d'être d'emblée modeste, celle d'homme ou de femme de génie. l'ingénieur, là-dedans, il y a génie. Alors, mauvaise nouvelle quand même, il ne s'agit pas forcément de grands hommes, genre Beethoven, Galilée, Newton, tout ce que vous voulez. Le génie, dans son sens originel, ça désigne l'homme animé d'une disposition naturelle à créer. C'est d'ailleurs cette disposition naturelle que vient célébrer ce détail d'une vue imaginaire de l'école des ponts et chaussées. Je vous montrerai la vue d'ensemble réalisée au cours du XVIIIe siècle. Vous voyez, il y a un gars qui potasse sérieusement, mais en fait qui est animé de cette disposition naturelle à créer, comme ses petits camarades. Donc j'espère que vous êtes tous rentrés dans cette maison avec cet état d'esprit. Alors il y a deux éléments importants dans l'affaire. La première, c'est évidemment l'idée de créateur. On a peut-être eu tendance, ces dernières décennies, à oublier parfois que l'ingénieur, c'est d'abord un créateur. Donc créateur, mais un créateur qui ne crée pas à partir de rien et dans la pure fantaisie, il crée en quelque sorte sous la dictée de la nature. L'ingénieur tire de la nature, de l'observation de la nature, des lois naturelles, etc., des choses nouvelles. Donc, premier sens, donc, c'est cette idée de disposition naturelle à inventer. Alors, après l'homme naturellement inventeur, deuxième sens qui émerge très tôt associé au mot ingénieur, celui d'homme d'engin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'invente l'ingénieur ? Des engins, des machines, des dispositifs qui lui permettent de répondre aux objectifs qu'il s'est fixés. Ici, vous avez par exemple une machine par l'ingénieur de la Renaissance, l'ingénieur italien de la Renaissance Taccola. Il y a une véritable fascination à la Renaissance pour les engrenages, les pompes, tout ce qu'on peut faire avec la mécanique, et toute une série de dessins en témoignent. Alors, beaucoup de ces inventions ont une finalité militaire au départ. L'ingénieur, c'est quand même beaucoup un homme qui travaille pour la guerre, mais pas seulement. Par exemple, les ingénieurs vont se passionner pour les roues à aube qui permettent de faire tourner les ateliers pendant très longtemps. Progressivement aussi, ils vont envahir le domaine de la construction et les bâtiments seront pour l'ingénieur comme de grandes machines. À noter d'ailleurs du même coup la parenté très forte de l'architecte et de l'ingénieur. En fait, avec beaucoup de figures qui sont à la fois architectes et ingénieurs, et cela jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, par exemple, avant de rentrer à l'école des ponts et chaussées, vous n'auriez pas fait une prépa, vous auriez fait 1 à 2 ans d'architecture pour vous préparer donc à ce qu'on vous demandait à l'école. Alors, homme de génie, homme d'engin, dans le latin médiéval comme en vieux français, l'ingénieur aussi se part d'autres caractéristiques. Il y a aussi l'idée de l'homme qui est capable d'exposer les motifs de ses actes, les raisons de ses inventions. Ce qui se profile du même coup, très tôt, c'est l'idée d'homme rationnel. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses n'importe comment, il les fait pour de bonnes raisons. Mais il y a un dernier sens sur lequel je voudrais insister, c'est en fait celui de l'homme doué d'une ingéniosité qui confine à la ruse, l'homme en quelque sorte rusé. Qui est rusé parce qu'il utilise des moyens non conventionnels. Alors, de ce point de vue, on pourrait dire qu'Ulysse, finalement, c'est le premier ingénieur. C'est-à-dire que pendant que vous avez des gars comme Hector ou Achille qui se castagnent un peu bêtement à coups d'épée, etc., et qui n'arrivent pas, de toute façon, à décider du sort de la guerre, Ulysse a l'idée de son cheval, et avec cette ruse, en fait, qui est une espèce de grande machine, une machine de guerre, en fait, le cheval, eh ben, il va parvenir à prendre Troie. Donc cette idée d'homme qui parvient par des moyens non conventionnels, et d'ailleurs les ingénieurs apparaissent, on peut dire, au déclin de l'âge de la chevalerie, bah, ça va être finalement l'art de la guerre au moyen de stratagèmes. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il ne faut pas croire que tout est bon dans l'ingénieur, c'est une figure un peu plus ambiguë que ce qu'on en retient souvent. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est, après l'étymologie mêlée à un soupçon de philosophie des techniques, c'est de faire un peu d'histoire. Et afin, en fait, de saisir comment va émerger progressivement à partir de figures qui sont au départ des sortes d'artistes isolés. Il y a une lettre très extraordinaire de Léonard de Vinci où il explique, où il essaye de se vendre à un prince de la Renaissance, et puis il énumère tout ce qu'il sait faire. Alors ça ressemble à un bric-à-brac un peu étonnant, il dit « je sais faire des machines pour la paix, des machines pour la guerre, des feux d'artifice, des secrets merveilleux, etc. » Et ça continue, puis à un moment il note quand même qu'il sait faire un peu de peinture et de sculpture. L'ingénieur, c'est un peu ça, la Renaissance, cette espèce d'homme un peu touche-à-tout, qui connaît la technique, etc. Et puis progressivement, ça va devenir une profession, on va créer des écoles, toute une série de choses de ce genre. Donc c'est cette histoire-là maintenant dont je voudrais parler, parce qu'elle permet aussi de repérer l'émergence de problèmes auxquels vous allez être, pour certains d'entre vous, confrontés, comme par exemple technique ou fonction de management. C'est des questions qui émergent au fil de l'histoire. Donc je vais aller assez vite, mais c'est encore une fois une conférence plus pour vous donner quelques idées sur ce sujet. Alors, première étape, l'ingénieur au départ à la Renaissance est encore une fois une figure isolée, un artiste au sens assez général que revêt ce terme jusqu'à la première révolution industrielle. On va appeler artiste jusqu'à la première révolution industrielle aussi les artisans, les techniciens, etc. Mais un art qui se veut plus noble que l'art du serrurier ou l'art du fontainier parce qu'en prise sur un savoir humaniste en relation avec les sciences, l'ingénieur, dès le départ, va se définir comme un intellectuel des techniques, un homme qui raisonne, encore une fois, sur les techniques. Plus précisément, on pourrait dire un médiateur entre le monde de l'esprit et celui de la matière. Alors, l'art de l'ingénieur, en pratique, je l'ai déjà mentionné, c'est l'art de concevoir toutes sortes de machines, plus tard des édifices, etc. Et du coup, d'ailleurs, les ingénieurs partagent avec les architectes une figure fondatrice, qui est Filippo Brunelleschi, qui est l'architecte de la coupole de Florence, mais en fait, la coupole de Florence, c'est au moins autant une œuvre d'ingénierie. Le grand génie de Brunelleschi, outre la beauté de la coupole, c'est d'arriver à la construire sans échafaudage qui descend jusqu'au sol, ce qui va complètement émerveiller les hommes de la Renaissance, et en fait, ce qui fait de Brunelleschi, d'ailleurs, au moins autant un ingénieur qu'un architecte. Donc, pour résumer, dans ce premier moment, on n'est certainement pas face à une profession, mais face à des individus isolés, qui partagent parfois des idées, etc., mais qui sont plutôt isolés. Alors, l'histoire ultérieure, ça va être la constitution progressive de collectifs d'ingénieurs. Et on va voir tous les problèmes que ça pose de collectifs, et les premiers collectifs vont se créer dans un domaine qui est la fortification. Pourquoi la fortification ? Parce que c'est probablement la première politique technique de très grande ampleur que mettent sur pied les premiers États territoriaux modernes, la France, l'Autriche, l'Espagne, etc. Et ça coûte très très cher. Et du coup, on va appeler les ingénieurs. Et les ingénieurs, ça c'était juste sur l'art des machines à la Renaissance, j'ai oublié celle-là. Léonard, juste pour terminer sur la Renaissance, Léonard est probablement, c'est le plus connu des ingénieurs de la Renaissance, mais en fait, il récapitule tout un savoir accumulé au cours de la Renaissance sur les machines, etc. Alors la fortification, pour y revenir, c'est le premier domaine d'ailleurs dans lequel les ouvrages vont être calculables. On va dimensionner les parties d'ouvrage en fonction de la portée des armes, d'où c'est pour le premier grand traité de fortification. On éteint son portable, quel que soit l'âge. C'est le premier grand traité de fortification français, et vous noterez la fortification réduite en art et surtout démontrée. Donc cette idée très importante. Et en fait, on va commencer à trouver des gens dont le statut commence un peu à se ressembler, qui sont les ingénieurs des fortifications. Alors, on trouve des ingénieurs dans d'autres domaines, mais ils sont rarement finalement organisés, comme commencent à l'être les ingénieurs de ce qu'on appellera bientôt le génie militaire. On trouve par exemple beaucoup de gens qui font de l'ingénierie dans le domaine de l'hydraulique. Ça dépasse d'ailleurs les frontières de l'Europe. Il y a toute une tradition, par exemple, arabe, d'hydraulique, avec des gens très proches des ingénieurs de la Renaissance italiens, qui sont qu'on appelle les Mouhandis. La grande différence avec l'Europe, on peut dire, c'est qu'ils ne vont pas s'organiser en profession. Et c'est cette organisation professionnelle qui va tout changer dans le cas de l'Europe. Alors, je saute dans le temps pour en arriver à fin du XVIIe, avec la création d'un corps d'ingénieurs, c'est-à-dire de gens qui ont tous un peu les mêmes statuts, avec Vauban, et qui va donc créer le corps des ingénieurs du roi ou corps des ingénieurs du génie. Quelques décennies plus tard, au XVIIIe siècle, on va voir toute une série de phénomènes qui vont nous rapprocher de ce qu'on connaît des ingénieurs aujourd'hui. Premièrement, une montée en puissance de l'idée que les ingénieurs, encore une fois, ne sont pas isolés, ils appartiennent à des collectifs. Ils œuvrent pour le bien général, c'est du XVIIIe siècle que va remonter l'idée que la technique c'est bien pour tout le monde, même si c'est une idée un peu critiquée aujourd'hui, mais en tout cas c'est une idée que va populariser le XVIIIe siècle. Avec deux grands modèles qui vont émerger. En France, pendant longtemps, on va être dans un modèle d'ingénieur d'État. Sur le modèle des ingénieurs du génie, si je suis ingénieur général des ponts et chaussées, en fait les grades du corps des ponts sont calqués sur les grades du corps du génie de la fin du XVIIe siècle. C'est pour ça qu'on a cette cascade de grades néo-militaires dans les corps de l'État français. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer juste en traversant la Manche en Angleterre, où vont naître des ingénieurs qui vont être des ingénieurs privés, des ingénieurs qui jouent plutôt un rôle de conseil et de conception des ouvrages, donc une filière complètement différente qui ignore complètement le service de l'État. Alors, du coup, d'ailleurs, en France, on va trouver des corps. En Angleterre, on va trouver des associations professionnelles. Et être ingénieur, encore aujourd'hui, dans un pays anglo-saxon, c'est appartenir à une organisation professionnelle. La plus prestigieuse d'entre elles naît le... donc ça, c'est le corps des ponts au XVIIIe siècle, et typique de cette création de corps. Le corps des ponts est créé en 1716 et est tout à fait typique de cette espèce de vague de création d'ingénieurs d'État. On va créer des ingénieurs des mines, etc., etc. En Angleterre, on va créer des associations. La plus célèbre qui existe encore aujourd'hui, c'est l'Institute of Civil Engineers, qui est créé en 1818, et qui encore aujourd'hui, si vous voulez être ingénieur de génie civil en Angleterre, il faut être affilié d'une façon ou d'une autre à l'ICI. Alors, à partir du moment où vous avez des collectifs, que ce soit des corps ou que ce soit des organisations de type association professionnelle, la question qui se pose immédiatement, c'est comment on rentre dans ces collectifs ? Et du coup, le 18e va voir émerger une deuxième question, qui est celle de la formation. C'est finalement comment on acquiert les compétences qui vous permettent d'être reconnu par les pairs comme ingénieur. Alors, et c'est là, merveille des merveilles, que nous voyons arriver notre chère École des Ponts et Chaussées, avec cette représentation parfaitement fictive. C'était largement le bordel, comme sur la photo, mais ça ne ressemblait pas à ça. Ça, c'est une représentation imaginaire qui essaye de suggérer l'idée que l'École des Ponts, c'est comme une académie, avec des gens qui font des tas de choses, des sciences, des arts, etc. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la scolarisation, ça va être la voie choisie en France. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je dirais l'ingénieur en France, c'est beaucoup quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, pour le meilleur et pour le pire. Alors, 1747, création de l'École des Ponts, 1783, École des Mines, 1794, l'édifice qui va couronner un peu cette première âge des écoles d'ingénieurs, l'École Polytechnique en France, je ne rentre pas dans les détails. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas un modèle universel. En Angleterre, jusque très avant dans le 19e siècle, le grand modèle, ça va être l'apprentissage. Pour devenir ingénieur, vous allez devenir apprenti chez un ingénieur déjà établi. Donc quelque chose de complètement différent. Et en fait, la scolarisation en Angleterre et aux États-Unis sera assez lente, la scolarisation des ingénieurs. Du coup, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, vous avez deux grands modèles professionnels quand on parle d'ingénieurs. Vous avez d'un côté, en France, le modèle de l'ingénieur d'État, qui est le gars qui est formé dans une école et qui rentre ensuite dans un corps de l'État. Que ce soit les mines, les ponts, le génie civil, etc., les mines, les ponts, le génie maritime et bien d'autres choses. Donc ça, c'est le modèle français. Et puis, vous avez un modèle anglais dans lequel vous avez des ingénieurs privés qui se forment par apprentissage auprès d'autres ingénieurs et qui se reconnaissent mutuellement à travers de l'appartenance à des associations professionnelles. Alors, ces deux modèles vont se diffuser un peu partout dans le monde, et on peut dire qu'en fonction des zones d'influence culturelle des pays, en général, les pays vont choisir plutôt le modèle français ou le modèle anglais. Les Russes, par exemple, au début du 19e, vont choisir le modèle français de l'ingénieur d'État. En Espagne, c'est pareil. Et puis, vous avez d'autres pays qui choisissent plutôt le modèle anglais. Et puis, vous avez une exception, qui sont les États-Unis, qui, comme toujours, choisissent tout. Donc, ils prennent à la fois le modèle anglais pour les ingénieurs privés et ils prennent le modèle français. Il va y avoir une très grande influence des ingénieurs français sur les ingénieurs d'État américains, dont on ne parle pas forcément toujours à l'étranger, mais qui est l'Army Corps of Engineers, qui est en fait, sont les gens qui s'occupent des digues, des ponts, des grands barrages, etc., l'endiguement du Mississippi. Vous en avez peut-être entendu parler, vous vous souvenez des inondations de la Nouvelle-Orléans. C'est l'Army Corps of Engineers qui s'occupe de ce genre de problème. Avec très très forte influence française, notamment on va traduire toute une série de manuels en usage à l'École des Ponts, ces gens qu'on forme à West Point, et pendant très longtemps, ils vont être saturés de sciences françaises, de manuels français, et leur devise, c'est pour ça que je vous ai mis ça, « essayons », qui est en général pas reconnaissable prononcée à l'américaine, est typique de cette influence française qui va rester très longtemps. Alors, je continue mon histoire, et on va en arriver au présent. 19e siècle, il va se produire une série de nouvelles évolutions. Première chose, dans un pays comme la France, progressivement, les modèles vont converger. Dans un pays comme la France, ça va même 20-30 ans, mais on va quand même finir par reconnaître qu'il n'y a pas que les ingénieurs d'État. Et vers 1829-1830, les ingénieurs civils acquiert reconnaissance. 1829, on crée l'école centrale. À l'école des ponts, qui n'est pas une institution super révolutionnaire, ça va mettre pas mal de temps. Si vous aviez été élève des ponts vers 1850, vous auriez porté le titre à la sortie d'ancien élève externe de l'école des ponts et chaussées. Vous voyez, c'est assez long. Donc, et c'est que très progressivement que le titre d'ingénieur des ponts va s'appliquer à tout le monde. C'est assez typique. Ça va être une vraie bataille pour arriver à unifier un peu la profession. Alors, autre phénomène. Alors, les Anglais, quant à eux, eh bien, ils vont commencer à scolariser leurs ingénieurs. Et plus globalement, au 19e, la formation va progressivement devenir le modèle dominant pour l'accession à l'ingénieur. Alors, l'apprentissage va décliner. C'est aussi le cas à l'école des ponts. L'école des ponts, c'était super jusque vers 1830. On avait très peu de cours, encore moins de conférences inaugurales, et on passait 6 mois sur le terrain. Progressivement, le côté scolaire va se renforcer. Ça, c'est donc merci à Isabelle Gautron pour cette diapo de l'amphithéâtre de l'école des ponts. Vous voyez, c'était encore assez intime à l'époque, le caco de l'époque. Donc une scolarisation progressive. Scolarisation progressive avec un ingénieur donc qui va être animé d'ambition. L'idée, ça va être de plus en plus que l'ingénieur, c'est un médiateur entre science et pratique. La notion de science devient très importante. Et avec une notion qui apparaît popularisée par l'école polytechnique, qui est l'idée d'application. C'est-à-dire, l'ingénieur, c'est l'homme qui applique la science. Alors ça, c'est une idée française au départ qui va avoir un succès gigantesque. Ça explique pourquoi il va y avoir tant d'écoles polytechniques partout dans le monde, de l'école polytechnique de Milan à l'école polytechnique de Sao Paulo. C'est lié à cette idée d'application de la science, avec des développements de toute une série de disciplines qui vont être liées à cette idée d'application, comme la résistance des matériaux. Alors ici, ça, vous n'êtes pas pétri d'émotion en voyant le résumé des leçons sur l'application de la mécanique de 1826 de M. Navier, c'est le même que l'amphi. Hein. Mais en fait, ça a été un best-seller mondial dans l'ingénierie. Par exemple, c'est un truc qui est traduit et enseigné à West Point. Donc c'est pour vous dire l'importance, c'est, on peut dire, le premier ouvrage moderne de calcul des structures. Alors, on pourrait se dire que tout va bien. Mais le problème avec la profession d'ingénieur, c'est que tout va bien jusqu'à un certain point, mais il y a toujours des problèmes. Alors, quelques problèmes qui surgissent. Premier problème, ça va tellement bien qu'en fait, le domaine d'application explose. Jusque-là, on peut dire jusqu'au début du 19e, l'ingénieur, c'est un gars qui fait essentiellement soit des constructions militaires ou des constructions civiles et un peu de machines. À partir du 19e, vous allez avoir une explosion du champ des techniques. Par exemple, avec le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est pas que du génie civil, c'est de la machine, c'est de la thermodynamique, c'est des tas de choses, et c'est très compliqué. Et puis, les domaines vont se multiplier, la chimie, l'électricité, j'en passe, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Du coup, est-ce qu'on peut encore parler d'une profession s'agissant de gens qui travaillent dans ces domaines de plus en plus différents? Et aujourd'hui, pensez à aujourd'hui, j'y reviendrai, à tout ce qu'on peut faire quand on est ingénieur. Alors du coup, ça va reposer une question qu'on croyait avoir réglée, qui est la question de la formation. C'est comment on forme les ingénieurs. Et là, je suis désolé, mais ce n'est pas la France, ni d'ailleurs l'Angleterre, qui vont expérimenter une nouvelle idée. C'est plutôt en Allemagne et aux États-Unis que va se faire jour une nouvelle idée, qui est finalement, et si on formait au travers de la recherche. Et ça, ça va être le grand moteur à la fin du 19e siècle des écoles d'ingénieurs américaines, notamment par exemple le MIT qui est fondé en 1861 mais qui ne fonctionne pas au début parce que c'est la guerre civile américaine, dans les dernières décennies du 19e siècle, devient un lieu important de recherche et finalement en reprenant à l'université cette idée de recherche et en l'implantant dans les écoles d'ingénieurs. Donc, et finalement, ça va être tout un nouveau volet de l'histoire finalement de l'enseignement d'ingénieur, avec l'idée finalement qu'il ne s'agit plus seulement d'appliquer la science, il faut en faire. Alors, autre question, celle-là vous vivez toujours avec, c'est la place de l'ingénieur dans l'entreprise. Est-ce que l'ingénieur c'est seulement quelqu'un qui résout des problèmes techniques ou est-ce que c'est un manager ? Au cours du 19e, les entreprises deviennent de plus en plus complexes et parfois énormes et se posent des problèmes d'organisation. Et en fait, on va voir arriver les ingénieurs dans le domaine de l'organisation. Un des plus célèbres, vous en avez peut-être entendu parler en première année, c'est Frederick Winslow Taylor, qui en fait est l'inventeur du taylorisme, ou aussi l'organisation scientifique du travail, scientific management en anglais, et qui va être finalement une doctrine de management, partant de la technique, mais allant jusqu'au problème de management. C'est typique finalement de l'arrivée en force des ingénieurs dans le champ de l'organisation, d'abord organisation industrielle, et puis de plus en plus finalement ce qu'on appellerait aujourd'hui les cadres. Donc ça se produit vers la fin du 19e. Et déjà à cette époque, vous avez des gens qui se désolent du fait que trop d'ingénieurs ne font plus de l'ingénieur, mais vont dans des fonctions de cadre. D'ailleurs, les premiers ingénieurs dans les banques, ça ne date pas des produits financiers, ça date déjà de la fin du 19e siècle. Donc, vous voyez des problèmes de genre. Alors, autre innovation qui, à l'époque, va aussi renforcer ce tournant managérial, c'est la production de masse, ce qu'on appelle parfois le Fordisme, parce que la production de masse, ça s'administre. Et les ingénieurs vont devenir des administrateurs, finalement, de la production de masse dans de nombreux cas. Donc, manager, ça va introduire une autre ambition chez l'ingénieur. Je vous avais dit que l'ingénieur, au départ, son ambition, c'est d'être entre la science et le terrain. De plus en plus, l'ingénieur va se vouloir un espèce d'arbitre entre le capital, les patrons qui pensent qu'à s'enrichir, si vous voulez, pour faire un peu du hollandisme primaire, ou il y a du hollandisme secondaire aussi, et où les ouvriers qui, eux, ne pensent qu'à flâner, c'est en tout cas ce qu'explique Taylor. Du coup, l'idée que l'ingénieur, ça peut être un médiateur entre capital et travail, idée très très forte à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Vous ne savez sans doute pas, mais le terme technocratie, c'est en fait, ça ne vient pas du français, ça vient de l'anglais technocracy, qui en fait désigne au départ un mouvement d'ingénieurs des années 20, qui en fait veut précisément mettre de l'ordre dans la société en disant finalement, il y en a marre des politiques, des capitalistes, et puis de l'autre côté des syndicats, donnons le pouvoir aux ingénieurs. Bon, ça ne va pas marcher, d'ailleurs probablement heureusement, très probablement heureusement, mais ça donne une idée un peu de ce type de nouvelles ambitions. Alors j'en arrive à la fin de mon histoire, le XXe siècle. Alors on pourrait croire qu'au XXe siècle, ça va se simplifier. Eh bien, pas du tout. Les problèmes vont encore continuer à se poser. Et évidemment, je ne dirais pas s'aggraver, mais en tout cas, ça va poser de plus en plus cette question, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? Vous noterez que je n'y ai pas encore complètement répondu. Qu'est-ce qu'un ingénieur? D'abord, vous avez une explosion des domaines et des champs de compétences encore plus vertigineuses qu'au 19e. Pensez à tout ce qui s'est passé, le nucléaire, l'informatique, l'espace. Bon, ça, c'est juste for the fun à l'époque où les ordinateurs, ça prenait encore des pièces entières. Et il faut évidemment des armées d'ingénieurs, que ce soit pour concevoir ces machines, les faire fonctionner, etc., etc. Je dirais un nouveau domaine qui, en quelques décennies, il faut voir que l'informatique, c'est très tardif. C'est-à-dire IBM, IBM était un truc qui fabriquait des genres de machines à calculer pendant très longtemps, pas du tout électronique. Et IBM se lance dans l'informatique dans les années 50, au moment de la guerre de Corée. Et 20 ans plus tard, IBM est devenu Big Blue et fabrique donc des systèmes, etc. Donc des cohortes d'ingénieurs vont envahir ce champ nouveau de l'informatique dans une société comme IBM, mais aussi bien d'autres. Donc une explosion des domaines, des champs de compétences, le nucléaire, l'informatique, l'espace, etc. Du coup, des problèmes qu'on aurait pu croire résolus et qui ne sont pas résolus. Premier problème, par exemple, la question des rapports entre vocation technique et carrière managériale. Bon, j'ai fait partie, par exemple, alors ça s'est un peu équilibré dans un endroit comme l'École des Ponts, mais j'ai fait partie des promotions dans lesquelles il fallait vraiment chercher, il y avait vraiment que les fous furieux qui voulaient absolument faire une carrière d'ingénieur. Tout le monde voulait aller plutôt, je dirais, dans d'autres types de carrières, administratives, la banque, etc., etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus balancé, mais ça reste une tension. Et c'est une tension dans un endroit comme ici. Du coup, d'ailleurs, ça se traduit en termes très concrets, comment on vous forme ? Sachant qu'il y en a une partie d'entre vous qui va être intéressée par le génie civil, une autre partie par les produits financiers. Comment on vous forme? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qui va permettre à la sortie de l'école de dire « bon, ben, je prends un ingénieur des ponts parce qu'il a telle ou telle qualité ». Mais c'est quoi les qualités de l'ingénieur? Donc vous voyez, des problèmes pas très simples. Alors il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes plus globaux. Concernant le rôle des ingénieurs dans la société, dans le développement. Vous avez par exemple des gens, vraiment des vilains esprits, qui se disent « les ingénieurs, au fond, ça sert à rien, c'est pas ça qui est moteur du développement ». Et puis vous avez le discours contraire. Et la place des ingénieurs dans le développement est une question qui se pose jusqu'à aujourd'hui. avec là aussi des spécificités d'un pays à un autre. Par exemple, en France, tout le XXe siècle a été marqué par une espèce d'alternance entre on a trop d'ingénieurs ou on n'en a pas assez. Pourquoi on a eu ça? Parce que la profession en France se définit très tôt, à cause de cet héritage des ingénieurs d'État, c'est une profession très élitiste. En France, être ingénieur, c'est plutôt chic. Aux États-Unis, être ingénieur, bon, ben, c'est neutre. C'est moins chic que d'être architecte, par exemple. Hein, sachez-le, bon, comme ça, vous serez préparé psychologiquement. Du coup, c'est une profession qui, spontanément, a des réflexes malthusiens. Avec l'idée qu'il ne faut pas qu'on agrandisse trop. Ben, par exemple, si je vous dis demain, on va accueillir la promo 2016 de l'école des ponts, ça sera 2000 élèves à l'entrée. Vous allez être horrifiés. Bon, 2000 élèves à l'entrée, c'est à peu près la taille de ce qu'admet Harvard chaque année dans son collège. Mais ça va vous horrifier. Bon, donc vous voyez, des réflexes malthusiens. Mais d'un autre côté, une espèce de peur panique en France, très régulièrement, il y a eu ça après 14, il y a eu ça après en 45, il y a eu ça encore très récemment, qu'on va manquer d'ingénieurs. Et le discours sur le fait qu'on manque d'ingénieurs, qui est d'ailleurs un problème réel, en fait on manque réellement d'ingénieurs dans une série de domaines, c'est bon pour vous, c'est quelque chose qui revient, il y a quasiment chaque année au moins un article du Monde ou autre assimilé sur cette question-là. Là c'était un article de 2013, bon, je l'ai pris au hasard, mais j'en ai de 2012, 2011, etc. Donc vous voyez, des questions comme ça. Alors, donc, tout ça pour dire que c'est une histoire complexe. C'est une identité complexe que celle de l'ingénieur. Alors je vais essayer maintenant d'avancer un peu sur tout ça, mais se dire que c'est pas simple, parce qu'en fait l'ingénieur c'est le fruit d'une histoire assez complexe, et c'est une figure qui couvre des domaines absolument gigantesques, et donc ça crée quelques particularités. Alors je vais vous parler maintenant de quelques défis contemporains. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que ça c'était les défis, on peut dire, de hier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui depuis 20-30 ans? Parce que là aussi, il y a des choses nouvelles auxquelles il faut réfléchir lorsqu'on rentre à l'école des ponts. Le premier, et on pourrait croire que c'est simple, mais c'est le positionnement face à la science. Pourquoi? Parce que traditionnellement, l'ingénieur, c'était l'homme, c'est un peu l'héritage de la vieille idée d'application, l'ingénieur, c'était le gars qui était entre le savant fou. Si vous voulez, vous imaginez professeur Cosinus ou Einstein avec les cheveux en folie. Ça, vous n'avez pas envie de confier la gestion d'un parc informatique à Einstein. Ça vous d'un grand pont. Donc, il y avait Einstein, il y avait l'ingénieur, et puis ensuite, il y avait les ouvriers, la société, etc. L'ingénieur, il était entre les deux. Il y a toute une série de domaines ces dernières années dans lesquels vous avez des courts-circuits de plus en plus forts entre sciences pures et industrie. Et ce qu'ont parfois les épistémologues parlent maintenant, le mode B, le mode A, c'était un mode traditionnel où il y avait la science, la technique et l'industrie. On est passé d'une espèce de mode B dans lequel on a la science et souvent directement des applications industrielles. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait des ingénieurs dans ce contexte-là? Alors ça touche des domaines, alors ça se traduit parfois par des choix pédagogiques. Harvard, par exemple, a décidé de créer une école d'ingénieurs. Il y a 4-5 ans, mais en fait, c'est une école d'ingénieurs qui ne forme pas des ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs qui forme des gens aux sciences de l'ingénieur. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez différent des modèles qu'on pouvait connaître. C'est très différent, par exemple, d'MIT, qui est à 3-4 kilomètres. Donc, quelque chose, un rapport complètement différent. Alors, ça touche des domaines même qu'on pourrait croire très classiques. Prenez les matériaux. Vous avez aujourd'hui une espèce de court-circuit dans toute une série de domaines entre sciences des matériaux et industrie. Alors, je vous rassure, bien évidemment, sinon je ne serais pas là, je pense qu'on a toujours besoin d'ingénieurs, même dans ces domaines, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir un peu à comment on les positionne. Et puis, ça veut dire aussi, de la part des futurs ingénieurs et des ingénieurs, qu'il faut peut-être aussi remettre en cause des choses qu'on croyait à jamais immuables. Alors, ça se corrèle à une autre chose, qui est le fait que la science elle-même, les enjeux scientifiques et techniques ont changé. Vous avez une montée, par exemple, en puissance, très clairement. Si vous voulez, on a l'après-guerre, ça a été la physique était la science réelle. Et puis aujourd'hui, c'est devenu le vivant, qu'on le veuille ou non. Et le vivant, ça ne se pense pas pareil que la physique. Plus généralement, vous prenez l'ingénierie, on va quand même de plus en plus vers des problèmes environnementaux complexes qui sont systémiques, comme on dirait de façon savante, holistiques, c'est-à-dire que tout est dans tout et on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Et en général, l'ingénieur est dans les formations traditionnelles d'ingénieur, ont des problèmes pour s'adapter à ça. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur, souvent, ça se reconnaît, c'est un gars qui dit, voit le problème A, je vais le décomposer en A1 et A2. Soit c'est A1, soit c'est A2. Ensuite, si c'est A1, c'est A11 et A12. Vous voyez, bon, ce type de façon. Manque de peau dans le vivant, A1, A12, B, etc., tout est mélangé. Donc comment on fait? Ce n'est pas une question simple, et ça va être un défi aussi pour l'école des ponts. C'est-à-dire que le génie civil, eh ben, il va changer sous l'effet des contraintes environnementales, etc. Alors, l'autre question, évidemment, liée à tout ça, c'est la question de l'innovation. Je vous ai parlé de mode B, etc. La question qui est posée aujourd'hui, qui est nouvelle, c'est comment on met une formation d'ingénieur en prise sur la question de l'innovation. Alors, en fait, on pourrait, pour résumer, c'est quand même une tâche simple pour vous, ce qui va être vachement simple dans vos études, c'est qu'il va falloir être probablement plus près de la science fondamentale qu'autrefois, parce que c'est de ce côté qu'il y a les nouveautés, et en même temps plus près de l'industrie et de l'innovation. Vous voyez, il n'y a plus qu'à. Hein. Mais c'est ça un peu un des défis qui vous attendent, c'est d'être à la fois plus au fait de ce qui se fait en sciences fondamentales et beaucoup plus agile par rapport aux questions économiques, sociales, etc., que requiert l'innovation. En dernier point, je parlais d'interrogations sociales et politiques il n'y a pas très longtemps, à la fin de la section précédente. Il faut quand même dire qu'on a aussi des questions concernant les ingénieurs, leur place dans la société, etc. Par exemple, petite question, vous êtes à, je ne sais plus, 90%, quelque chose comme ça, issus des classes privilégiées. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui le débat sur l'inégalité, c'est un débat qui se pose un peu partout, et la question finalement de la place des ingénieurs dans cette société, est-ce qu'ils contribuent finalement à renforcer encore l'inégalité ou pas, c'est une question qui se pose. Autre question qui se pose, j'ai vu que vous êtes, je crois, à 26,6% de femmes dans la promotion entrante. C'est bien par rapport à ce que c'était de mon temps, mais c'est quand même pas terrible. La profession d'ingénieur est globalement une des professions les moins féminisées, et alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est mondial. Ça reste une des professions les moins féminisées à l'échelle de la planète, ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne chose. Alors, dernier point, et c'est peut-être le plus important à comprendre, c'est la fin des certitudes. C'est que du XVIIIe siècle, on avait tous hérité dans nos sociétés développées, etc., l'idée que la technique, c'était bien, faire des ponts, c'est bien, faire des tunnels, c'est bien, etc., etc. Aujourd'hui, l'acceptabilité de la technique, elle n'est pas toujours garantie. Ça veut dire que l'ingénieur, il n'est pas toujours accueilli en héros triomphateur. Il va parfois sérieusement devoir négocier avec la société civile, etc. Prenez, par exemple, bon, le fameux aéroport, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais j'en aurais pu prendre 10 000. Là, vous avez dû voir, si vous regardez les actualités télé, il y a un problème avec un barrage. Vous avez encore dans le Tarn, où les gens ne veulent pas du barrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ingénieur ne peut plus être, comme autrefois, cette espèce de figure héroïque qui a toutes les bonnes solutions, etc. En résumé, entre la féminisation, l'acceptabilité des techniques, etc., messieurs, si vous pensiez que c'était ça votre avenir, eh ben il faut renoncer tout de suite. On vous demande plus d'être ça. On vous demande d'être quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les solutions tout de suite, qui est à l'écoute. Et alors, devinez, ça c'est le moment de pitch pour les sciences sociales. C'est aussi pour ça qu'on vous fera subir quelques séances de sciences sociales à l'école, parce que l'idée c'est quand même qu'il va falloir que vous appreniez un petit peu à comprendre un petit peu mieux la société dans laquelle vous vivez, parce que finalement ça va devenir aussi important que d'avoir le bagage scientifique. J'en arrive à ma dernière section, je vois que j'ai à peu près respecté les temps, j'en arrive à ma dernière section. Finalement, le charme de l'histoire, je suis plutôt historien au départ, c'est que ça complique les idées. Et notez que ce n'est pas forcément toujours une mauvaise chose que d'avoir des idées un peu compliquées. Enfin, revenons néanmoins à la question dont j'étais parti, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? Alors, on peut bien sûr avancer toutes sortes de réponses. Par exemple, si j'avais à dire qu'est-ce que c'est qu'un élève des ponts, je dirais c'est quelqu'un qui se définit par sa culture scientifique et technique, par une certaine sensibilité, qui à la fois est quelqu'un qui a une certaine compréhension des maths, de la physique, de la méca, et une espèce d'intuition quand même que le monde n'est pas en apesanteur, il y a une espèce de bon sens que vous êtes censé normalement acquérir dans cette maison, etc. En France, plus globalement, l'ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui a un fort bagage mathématique. C'est d'ailleurs un acquis de l'histoire. Ça vient en fait de la tradition militaire. En fait, on revient au corps du génie. L'idée que les maths, en fait, le premier domaine dans lequel on a trouvé appliquer les maths, c'est l'artillerie. Ça servait à envoyer des boulets. Et du coup, on en a gardé en France l'idée que les maths, c'est pas de la théorie opposée à l'action. Les maths, c'est la théorie de l'action. Ce qui a d'ailleurs une conséquence en France, c'est un des pays où il y a le plus d'ingénieurs économistes. Parce que si vous êtes ingénieur, des maths pour l'action, ça peut faire de vous un économiste. Donc vous voyez, il y a des espèces d'héritages historiques comme ça. Alors par exemple, les Anglais et les Américains sont beaucoup moins matheux. Le niveau moyen d'entrée à MIT en maths, il est moins élevé que celui de l'école des ponts. Ça va dépendre là aussi des départements, etc. Mais c'est globalement beaucoup moins matheux dans d'autres pays. Tout ça pour dire que, bon, la culture scientifique, oui, mais en sachant qu'il y a des variantes. L'ingénieur, c'est aussi, en termes très concrets, un certain nombre de fonctions qui vont de concepteur, conseil, manager, etc., etc., j'en passe. Là aussi, avec des différences importantes d'un pays à un autre. Il y a des pays plus managériaux que d'autres, par exemple, en termes de trajectoire d'ingénieur. Par exemple, c'est très compliqué d'expliquer ce que c'est que l'école des ponts en Amérique. Il faut essayer d'expliquer que c'est aux deux tiers une école d'ingénieurs et un tiers une business school. Et là, quand vous essayez d'expliquer ça à un Américain, vous avez parfois un peu des difficultés. C'est même pas complètement ça. C'est 50% école d'ingénieurs, 20% business school, et ensuite des trucs, on sait pas bien ce que c'est. Bien. Alors, évidemment, ça peut nous dire concrètement ce que c'est qu'un ingénieur. Mais je voudrais rajouter une dernière caractéristique, qui me semble peut-être la plus importante avant de rentrer dans une école comme ici, qui est que, bon, revenons à l'homme de génie. Le génie de l'ingénieur, c'est pas uniquement d'inventer des engins ou plus généralement des solutions techniques, d'apporter des solutions techniques. C'est à travers ces solutions techniques d'être capable de promouvoir une vision. En d'autres termes, l'ingénieur, pour moi, mais je pense que je suis loin d'être le seul et je vais essayer de vous le montrer, un bon ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de promouvoir quelque chose, une cause, une vision à travers la technique, à travers les solutions qu'il apporte. En d'autres termes, encore une fois, l'ingénieur doit être un visionnaire. Mais je vous rassure, il y a bien des façons d'être visionnaire. Alors, juste quelques exemples tirés de l'histoire. Vous pouvez, par exemple, être un grand concepteur et inventeur. Eugène Freycinet, par exemple, ancien de cette maison, qui a construit des ouvrages magnifiques tout au long du XXe siècle et qui a aussi inventé le béton précontraint. Et le béton précontraint, il y croyait. Pendant très longtemps, tout le monde lui a dit « c'est débile, cette idée de vouloir mettre le béton en précontrainte ». Il y croyait, et s'il n'y avait pas cru comme une espèce de vision, il n'y serait pas arrivé. On peut être, alors, parfois le promoteur d'une grande idée. Alors, je vais vous décevoir, alors c'est normal, j'ai pris comme victime un centralien, quand même. Gustave Eiffel n'a pas eu l'idée de la tour. Mais il est d'autant plus génial. En fait, la tour, c'est une idée de trois de ses employés, qui font le crobar que vous avez sur votre gauche, le dessin sur votre gauche. Mais en fait, Eiffel, il voit le dessin, qui était un espèce de délire de gars qui avait bu trop d'absinthe après le boulot, c'est ce qu'on buvait à l'époque. Il voit le dessin, il se dit « c'est génial !» Et il rachète l'idée à ses collaborateurs. Et alors, vous imaginez faire une tour de 300 mètres dans un Paris super plat de la fin du 19e, c'était encore pire qu'aujourd'hui. Donc, il va pousser l'idée, etc. Il va réaliser la tour, et la tour qu'on lui concède à titre provisoire pour l'exposition de 1889, il va arriver à ce qu'elle reste dans le paysage parisien. Ça aussi, c'est un visionnaire. Il y a des visionnaires. Revenons à l'école des ponts, un gars dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est bien dommage. Paulin Talabot, c'est le gars qui a créé la ligne Paris-Lyon-Marseille. C'est le gars qui a complètement transformé le port de Marseille, qui a ensuite créé les premières lignes de paquebots pour l'Algérie, qui en Algérie a acheté des forêts, des mines, etc., qui a créé un empire très lié à une vision qu'il avait de la réconciliation de l'Orient et de l'Occident. C'est un ancien Saint-Simonien, j'en parlerai dans 5 secondes. On peut avoir de grands plans et être un ingénieur visionnaire. Dernier point, bon, Jean-Charles Alphand, vous en avez probablement jamais entendu parler, ça a été l'homme qui a en fait créé le Paris haussmannien à travers des parcs, des jardins, les rues, etc. C'est le grand ingénieur visionnaire de l'époque d'Haussmann. Alors, il y a bien sûr une parenté derrière ça avec l'utopie. Moi, je pense qu'il est bon, il ne faut pas délirer trop. J'ai consacré une partie de ma vie à travailler sur ces gens bizarres. Le gars du milieu, en fait, c'est un ingénieur. Ça fait un peu peur, mais c'est un ingénieur. Mais attention, ces gars qu'on appelait des Saint-Simoniens dans les années 30, ils vont être à l'origine du chemin de fer français moderne. Paulin Talabot, c'était un Saint-Simonien au départ. De la banque, les premières banques vont être modernes, vont être créées par des Saint-Simoniens, etc. Donc, je dirais qu'il faut être un peu délirant quand même pour faire de grandes choses. Alors, ce qui compte encore une fois surtout, et je conclurai là-dessus, c'est d'imaginer un monde différent. C'est d'imaginer un monde rendu différent, un futur différent, dans lequel tout n'est pas écrit. Et je terminerai simplement pour passer en guise de transition en mentionnant, c'est peut-être en lisant l'ouvrage de Jean Crisel sur Albert Caco, c'est peut-être ce qui me frappe le plus chez Albert Caco. Voilà un homme, bon, il dessine des ballons complètement nouveaux, etc., pendant la guerre de 14, mais derrière ça, ce qu'il aperçoit, c'est un monde complètement transformé par l'aérien, l'aviation, et je dirais cette espèce de capacité de voir l'avenir. Alors, pour conclure, je dirais, ce que je vous souhaite à tous, c'est d'avoir, évidemment, cette capacité de vision. L'école, ça doit être pour vous les quelques années au cours duquel doivent se forger cette vision d'un futur différent. C'est en tout cas ce que je vous souhaite et je vous remercie.
Merci infiniment, Antoine, pour cette grande fresque historique, géographique, et puis cette introduction à la formation à l'école et pour toutes ces ambitions pour nos jeunes élèves. Donc, nous allons maintenant avoir le grand plaisir d'accueillir Thierry Crisel, qui est le petit-fils d'Albert Caco. Ancien élève de cette école, ancien élève de l'école polytechnique. Il a eu une grande carrière, en particulier dans le domaine des ports. Il a été directeur de l'ensemble des ports français. Il a écrit sur Albert Caco et il va... Aujourd'hui, nous proposer un portrait de son grand-père à travers un panorama de son œuvre. Donc, voilà, une œuvre considérable. Thierry Crisel, je vous donne la parole.
Antoine Picon m'a fourni la transition à la fin de son exposé en parlant brièvement d'Albert Caco. Je vais essayer donc maintenant de vous en parler plus précisément. Je l'ai connu pendant plus de 30 ans et j'ai même eu la chance de profiter de ses conseils professionnels puisque c'est mon grand-père, comme l'a dit François Chevoir. Mais je vais essayer de vous montrer que la démarche d'Albert Caco en tant qu'ingénieur reste actuellement un modèle à suivre. Alors, Albert Caco était originaire de Vouziers dans les Ardennes, il a toujours été très attaché à sa région natale. Il était fils d'un exploitant agricole et dans sa jeunesse, il a réparé et amélioré les machines agricoles de la ferme et cela, je crois, contribué grandement à lui donner sa profonde compréhension de la mécanique et des flux de contraintes dans la matière. Alors, il entre en 1899 à Lix. Il intègre en 1901 l'école des ponts et Eugène Fraissinet, dont Antoine Picon vous a parlé, est dans la même promotion. Et lors de l'inauguration des nouveaux locaux de Marne-la-Vallée, parmi les grands ingénieurs sortis de cette école des ponts, c'est à Caco et Fraissinet que le président de la République rendra un hommage particulier dans son allocution. Alors, Albert Caco est d'abord affecté de 1905 à 1912 au service des ponts et chaussées de l'Aube à Troyes avant de passer ultérieurement dans le privé. Il s'occupe de ponts. L'intelligence de sa conception du pont Hubert sur la Seine lui vaut des félicitations ministérielles. Mais surtout, il sort très vite du domaine normal de compétences d'un ingénieur des ponts. Et il est préoccupé par le fait que le taux de mortalité dans la ville de Troyes atteint un niveau anormalement élevé. Il démontre que cela résulte de la pollution de la nappe phréatique qui est à fleur de sol et que pour abaisser cette mortalité, eh bien, il faut créer un véritable réseau d'assainissement. Et il conçoit alors des égouts et ovoïdes très innovants que vous voyez sur la diapo. Et il sait convaincre les habitants et la municipalité de lui faire confiance et de dégager les financements. Et ainsi, il va sauver de nombreuses vies humaines. Alors, c'est très caractéristique, nous le verrons, de la démarche d'Albert Cacault comme ingénieur. Il sort des sentiers battus, il analyse sans contrainte des problèmes non résolus, dont la solution est essentielle à la société, et il trouve une solution innovante et simple. Puis, pour la mettre en œuvre, il fait preuve d'une conviction inébranlable qui fait tomber tous les obstacles. Alors, 2014, c'est le centenaire du début de la guerre de 14-18. Eh bien, nous allons voir que Albert Cacault a joué un rôle majeur pour la victoire alliée. La mobilisation de 1914 l'envoie commander la 21e compagnie d'aérostiers à Toul. Et sur ce front de Lorraine, il accomplit son devoir avec courage, puisqu'il est décoré de la croix de guerre avec palme et reçoit la Légion d'honneur sur le champ de bataille. Mais au contact des réalités du terrain, il constate les insuffisances du ballon sphérique d'observation qui était en usage depuis 1794. Il dessine alors un matériel nouveau que vous voyez sur la diapo. Ce ballon Cacault permet l'observation jusqu'à une vitesse de vent de 25 mètres par seconde contre seulement 8 mètres par seconde pour le ballon sphérique et 14 mètres par seconde pour le ballon allemand Draken. Alors, il a affaire aux objections des officiers de l'état-major, mais il en triomphe et son prototype de nouveau ballon est testé avec succès et puis réalisé sur ses plans détaillés. Nous retrouvons là la méthode qu'il a appliquée à Troyes dans un domaine qui est pourtant beaucoup plus éloigné de sa formation initiale. Alors, vous voyez sur cette diapo le ballon justement testé à Couët-Quidan. Et c'est un ballon, donc encore une fois, très, très innovant, avec trois empennages à l'arrière. Et la forme de la carène qu'il a adoptée procure une moindre résistance aérodynamique et une traction diminuée sur le câble. Les trois empennages sont triangulés intérieurement par des câbles et gonflés par le vent. Et le ballon a ainsi une grande stabilité. Le reste du ballon est gonflé à l'hydrogène parce qu'à l'époque, l'hélium ininflammable n'est pas encore en production industrielle. Maurice Roy, académicien, qui fut le collègue de Cacault à l'Académie des sciences, dira de ce ballon que c'est un chef-d'œuvre à la fois d'ingéniosité et de simplicité, véritable signature d'un grand mécanicien. Alors, l'utilisation de ces ballons pendant la guerre de 14, coordonnée avec celle de l'artillerie et de l'aviation, est d'une importance stratégique majeure. En particulier dans la bataille de Verdun en 1916, les ballons Cacault font pencher la balance en faveur des alliés. En juin 1915, Albert Cacault est promu directeur de l'atelier d'aérostation de Chalais-Meudon. Il va ainsi diriger la production de ces ballons en grande série. Et en août 1917, la production de ballons Cacault atteindra 320 par mois. Alors, Albert Cacault, quand il s'attaque à un problème, il s'attaque à toutes ses composantes. Et une des composantes importantes pour un ballon d'observation, c'est le treuil de manœuvre. Alors, il conçoit un nouveau treuil, là aussi très innovant. Il s'agit d'éviter la rupture de câble sous l'effet d'une rafale de vent et de pouvoir ramener aussi très rapidement au sol un ballon qui est attaqué par l'artillerie ou les avions ennemis. Alors, Albert Cacault remplace le treuil à vapeur par un treuil mécanique monté sur châssis automobile et surtout l'enrouleur qu'il conçoit exerce une traction constante sur le câble d'attache du ballon. Ainsi, le ballon n'est plus réuni au sol, est réuni au sol par une force et non plus par un câble de longueur constante. L'amirauté britannique lui demande un ballon qu'il dessine pour les navires de guerre. Et il conçoit non seulement ce ballon pour la marine, mais également un treuil perfectionné. Alors ce ballon pour la marine donc permet d'observer, bien sûr, les navires et sous-marins ennemis et il reste stable avec un vent porté à 35 mètres par seconde. L'inventivité d'Albert Cacou s'étend aussi à des ballons de protection urbaine. Ce sont des ballons plus petits, d'un volume de 180 mètres cubes seulement, et leur câble oblige les bombardiers allemands à monter plus haut et à réduire leur charge d'explosifs et leur précision de largage. Ces ballons seront d'ailleurs réutilisés au cours de la guerre de 40 par les Anglais. À noter que Albert Cacou a toujours été désintéressé parce que dès 1915, il renonce spontanément à tous ses droits sur ces ballons en faveur de toutes les flottes et de toutes les armées et flottes alliées. Alors, après les ballons, Albert Cacou va être en charge des avions. En 1918, il s'avère que pour gagner la guerre, il faut désormais posséder la suprématie en avions de chasse. Et c'est Albert Cacou qui va apporter cette suprématie aux alliés. Et Clémenceau, qui est alors le chef du gouvernement et le ministre de la guerre, le nomme à la tête de l'aviation militaire. Et Cacou a alors à résoudre des problèmes difficiles sur les moteurs hispano qui sont destinés aux nouveaux avions SPAD. Il réussit à les résoudre et il organise la production en série de ces nouveaux avions et il équipe même l'armée américaine avec ces nouveaux avions. Et selon le témoignage de Clémenceau que vous lisez en bas sur la diapo, les qualités d'ingénieur et de chef d'Albert Cacou ont donné à l'armée aérienne les outils de sa victoire. Alors, Cacou, entre 1918 et 1928, est revenu au génie civil, mais en 1928, il est rappelé comme directeur général technique et industriel du ministère de l'Air. Et il va, à l'époque, donc révolutionner ce monde aérien. Il fonde les premiers instituts de mécanique des fluides. Il crée des laboratoires de recherche sur l'endurance des matériaux aux efforts alternés. Il fait construire l'école Supaéro et sa politique de réalisation d'avions prototypes innovants révèle des grands constructeurs aéronautiques, Marcel Dassault et Émile de Wattine. Il fait aussi construire la plus grande soufflerie du monde à Chalais-Meudon pour l'essai d'avions en grandeur réelle. Et jusqu'en 1970, des avions comme la Caravelle ou le Concorde y seront testés. En moins de 5 ans, il aura rénové l'aviation française et fait faire un pas décisif à la technique mondiale en introduisant le monoplan métallique. Ainsi que l'a écrit Marcel Dassault, comme vous le voyez sur la diapo, « Monsieur Cacou est un des meilleurs techniciens que l'aviation ait jamais connu. C'est un visionnaire qui, dans tous les domaines, abordait l'avenir. » Alors, Albert Cacou donc, a alterné aéronautique et génie civil, mais dans le génie civil, il a conçu près de 400 ponts, dont plusieurs furent des records du monde. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous les présenter tous, mais seulement quelques exemples. Vous avez l'exemple du pont Lafayette à Paris. C'est un pont biais au-dessus du faisceau de voie ferrée de la gare de l'Est. Il est en béton armé, à poutre droite continue en treillis multiples de 10,40 m de hauteur, et c'est le premier pont de ce type en France et à l'étranger. Alors surtout, il est réalisé sans interrompre la circulation des trains et dans un délai extrêmement court de 10 mois. Et on note sur ce chantier aussi deux innovations, des vibrateurs à air comprimé pour la bonne pénétration du béton autour des fers nombreux et rapprochés dans les poutres de ce pont. Et puis Albert Cacou invente aussi des cisailles à moteur électrique pour sectionner les très grosses armatures d'acier. Donc vous voyez qu'il se préoccupe vraiment de tous les éléments. Autre exemple de pont, le pont de la Caille près d'Annecy. Alors il est d'un type complètement différent. C'est un pont à arc inférieur encastré et ce fut un record du monde. La profondeur du ravin traversé, 150 mètres, appelait une méthode original de construction, et cet arc en béton donc est coulé sur un cintre en bois suspendu à des câbles. Le cintre en bois est très flexible, il ne peut pas supporter le poids de l'arc en béton. Donc la première épaisseur de béton et le cintre en bois servent à porter la deuxième épaisseur, puis le cintre et les deux premières épaisseurs de béton servent à porter la troisième. Alors vous voyez le pont de Lacan est terminée. On peut admirer la pureté de ligne de cet ouvrage. On peut dire que l'esthétique découle de la fonctionnalité telle que l'a voulu l'ingénieur. En 1934, Albert Cacault est élu à l'Académie des sciences et pendant 42 ans, donc, il en sera un membre très actif et il la présidera en 1952. Comme vous le voyez sur la diapo à droite, donc, c'est une partie de son épée d'académicien. Une épée d'académicien symbolise quelques-unes de ses œuvres. Alors, troisième et dernier exemple de pont conçu par Albert Cacault, c'est le pont à Auban qu'il a construit sur le canal de Donzère. Et c'est un pont donc, qui comporte un tablier en béton armé très rigide, suspendu obliquement par des haubans en acier à haute limite élastique. Alors, c'est la première réalisation au monde d'un pont de ce type, et ce type de pont a été réutilisé très, très fréquemment depuis. Alors, ça évite, par rapport à un pont suspendu, ça évite les massifs d'ancrage, puisque c'est les efforts horizontaux des haubans sont repris dans le cas de ce pont de Donzère, sont absorbés par le tablier en béton. En outre, sur ce chantier, le tablier du pont a été réalisé par éléments successifs en encorbellement, là aussi premier exemple de l'application de ce genre de technique. Alors, vous voyez sur la diapo que le pont Cacault à Auban de Donzère a eu de grands descendants dont les portées centrales dépassent le kilomètre. Alors maintenant, un exemple de barrage d'Albert Cacault, le barrage de la Girotte. C'est un barrage situé en haute montagne, donc les matériaux devaient être strictement économisés, car ils étaient amenés par téléphérique. Et en plus, dans la pénurie d'après-guerre, il n'y avait pas d'acier. Donc, confronté à ces lourdes contraintes, Albert Cacault résout le problème par un type de barrage qu'on appelle la contrefort auto-stable et voûte multiple, et dans lesquelles le béton donc, coulé sans armature est toujours en compression. Alors, une conception également très originale de Cacault, c'est la forme Jean-Bart à Saint-Nazaire, construite en 1935. Cette forme marque un tournant dans la construction navale, puisqu'elle permet la construction de navires à l'horizontale et leur mise à l'eau, non pas par lancement sur cale inclinée, mais par flottaison. On évite ainsi les accidents au lancement sur plan incliné et les efforts anormaux que supporte alors la coque. Et comme vous le voyez sur la maquette donc à gauche, la forme Jean-Bart réunit une aire de construction de navires à la côte de mi-marée et une forme écluse dont le fond est au niveau du chenal par lequel sort le navire. Une fois la coque construite, on pompe de l'eau de mer à l'intérieur de l'enceinte, on fait flotter la coque et on l'amène dans la forme écluse où l'on termine l'armement du navire. Bon, je ne vous parlerai pas de la sortie du Jean-Bart, le cuirassé qui y fut construit, qui en elle-même est toute une épopée qui mériterait d'être racontée. Alors, vous avez vu cette année la Coupe du monde de football au Brésil et vous avez souvent vu à la télévision la statue du Christ de Rio de Janeiro, qui est le symbole de ce grand pays qu'est le Brésil. Eh bien, c'est Albert Cacault qui a conçu la structure interne de cette statue. Le sculpteur français Paul Landowski est l'auteur de la forme externe. Ce squelette de la statue ne se voit pas de l'extérieur, n'est pas visitable par le public, mais c'est évidemment essentiel pour la stabilité de la statue et la pérennité de l'œuvre. Alors, cette structure qui rappelle un petit peu le pont Lafayette, puisque c'est une structure réticulée, supporte quand même d'importantes contraintes, les contraintes du poids de la statue important, le porte-à-faux des bras ouverts, le porte-à-faux de la tête qui est inclinée, et puis les ouragans, même puisque la statue est implantée à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, les ouvrages que je vous ai montrés montrent la grande variété des solutions trouvées par Albert Cacault. L'exemple aussi de l'usine marémotrice de la Rance qui a été construite pour exploiter donc l'exceptionnelle amplitude de marée dans cette zone qui est de 13,50 m. À l'époque, EDF cherche en vain comment barrer la Rance pour réaliser son usine. Et c'est Albert Cacault, qui a alors 80 ans, qui trouve la solution. Il conçoit des caissons cylindriques en béton armé qu'il fait préfabriquer dans le port de Saint-Malo, qui est tout proche, et ces caissons sont amenés par flottaison, puis lestés pour les poser sur le fond. Une enceinte de pales planches relie chaque paire de caissons, et chaque caisson comporte des rainures latérales verticales, ce qui fait qu'au moment de l'étale de courant entre flux et jusant et dans une marée de mortaux, on glisse dans ces rainures des planches en béton qui ferment la rance. Alors vous voyez quand même, les caissons étant en place, l'effet spectaculaire donc du débit de la rance qui est quand même de 18 000 m3 par seconde à mi-marée de vives eaux. Alors vous voyez maintenant l'enceinte terminée et l'usine marée motrice en construction à sec à l'intérieur de cette enceinte. Avantage supplémentaire du projet CACO, ces caissons à la fin des travaux ont pu être récupérés pour la construction d'autres ouvrages dans le port de Saint-Malo. Avec une puissance installée de 240 MW, la centrale de la Rance est restée la plus grande usine marée motrice du monde pendant 45 ans jusqu'en 2011. Elle a été détrônée très récemment par une centrale coréenne. Albert Cacou avait aussi conçu un grand barrage de la baie du Mont-Saint-Michel qui n'a pas pu être réalisé. L'avenir, maintenant, compte tenu des contraintes écologiques, est plutôt dans ce domaine aux hydroliennes et aux stations de transfert d'énergie par pompage, ce qu'on appelle les STEP. Alors, Albert Cacou, outre les ouvrages qu'il a réalisés, a fait progresser les sciences. Et quand la science ne fournit pas les réponses nécessaires aux besoins de sa technique, eh bien, il crée une nouvelle science en précurseur en 1930. Donc, il énonce la théorie fondamentale de l'adaptation des structures complexes aux contraintes qu'elles supportent par une déformation plastique limitée. Il est aussi l'initiateur de l'emploi de ce qu'il nomme la courbe intrinsèque pour définir les limites du domaine élastique de la matière, et tout ça a des applications pratiques pour élaborer le règlement de construction en béton armé. Il est à l'origine aussi d'une nouvelle science, la mécanique des sols, avec l'ouvrage qu'il publie en 1934, L'équilibre des massifs à frottement interne. Dans le domaine de l'hydraulique urbaine aussi, vous voyez sur la diapo son mémoire de 1941, eh bien, la méthode qu'il publie permet de calculer simplement les débits pluviaux à évacuer par les égouts d'une ville. Et cette méthode a été adoptée par l'État en 1949 pour la conception de l'assainissement des villes. Alors, Albert Cacou a su aussi transmettre son savoir pendant 30 ans aux élèves des écoles des mines, des ponts et de super-héros. Raymond Marchal, qui était ingénieur de l'air, qui a dit du cours de résistance des matériaux d'Albert Cacou, dont il fut l'élève en 1932, « Le professeur ne nous apprenait pas de recettes, il évitait aussi les développements de calculs inutiles, par contre, il nous formait à comprendre les phénomènes. » René Meyer, tout à l'heure, vous parlera également de son souvenir du cours d'Albert Cacou. Alors, en 1952, Albert Cacou est décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur, plus haute distinction française, exceptionnelle à titre civil. Et ce qui est intéressant, c'est que le chef du gouvernement qui lui remet cette distinction qualifie à juste titre Albert Cacou de créateur révolutionnaire. Mais le témoignage que vous pouvez voir également en dessous sur cette diapo est encore plus beau à mes yeux parce qu'il décrit l'homme qu'était Albert Cacou. Il a consacré sa vie aux autres, tout spécialement à ceux qui étaient en difficulté. Combien nombreux sont ceux qui ont bénéficié de sa bonté. J'ai pu attester de la véracité de ce témoignage. 2001 fut une année Albert Cacou. À l'occasion du 120e anniversaire de sa naissance, bas-relief inauguré dans sa ville natale, publication d'un livre, émission d'un timbre, conférence internationale Albert Cacou à Paris. Et chaque année encore, un prix Albert Cacou est décerné par l'Association française de génie civil aux plus éminents ingénieurs français et étrangers. Alors, ce témoignage de Fraissinet que vous voyez là sera ma conclusion. Pour résoudre les problèmes qui lui sont imposés par les besoins de la collectivité, le constructeur doit s'appuyer sur la science. Si celle-ci est insuffisante, il lui faut créer une science nouvelle. Et nous avons vu que Kako l'a fait dans plusieurs domaines. Discernement, bon sens, courage et ténacité sont nécessaires pour une réelle perfection de l'œuvre. Comme l'atteste Fraissinet, ces qualités sont réunies au plus haut point chez Albert Kako. Merci de votre attention.
Merci, monsieur Kérizel, de nous avoir fait comprendre en quoi Albert Kako a effectivement vraiment été, à travers cette œuvre considérable, soit le plan de la technique, des sciences, un ingénieur universel, un ingénieur visionnaire. Voilà, alors nous aurons tout à l'heure l'occasion de pouvoir voir une des réalisations d'Albert Kako lorsque nous rejoindrons la salle polyvalente. Nous avons une maquette de hangar, dit hangar Kako, qui nous a été prêtée par la direction de l'aviation civile. Et vous aurez aussi la possibilité, sur le chemin vers la salle polyvalente, de voir une exposition consacrée à Albert Kako dans la vitrine de la bibliothèque. Tout de suite, voudrais passer un troisième temps de cette matinée, qui est une table ronde à laquelle je voudrais donc inviter Monsieur René Maillère, Monsieur Quentin Martin Laval et nos deux orateurs de la matinée. Nous accueillons Monsieur René Maillère, ancien élève de l'école des Ponts et Chaussées, ancien élève de l'école polytechnique, qui a mené une carrière longue et variée d'ingénieur des Ponts et Chaussées. Il a eu des responsabilités éminentes, directeur de l'Institut Géographique National, directeur du Centre Scientifique Technique du Bâtiment. Il a été président de l'Association des Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines et beaucoup d'autres responsabilités éminentes. Nous accueillons aussi Quentin Martin Laval, jeune ingénieur sorti il y a 2 ans de l'école, donc ancien élève de cette école, ancien élève de l'école polytechnique. Nous leur avons proposé participer à cette table ronde pour nous apporter deux témoignages de nature différente. Alors, René Maillère a bien connu Albert Kako. Il a été votre professeur à l'école des Ponts et Chaussées au début des années 50 et vous avez été particulièrement marqué par son enseignement et par la personne d'Albert Kako. Et donc, je voulais vous inviter à nous parler de votre souvenir de votre illustre ancien.
Non. Je ne suis ici qu'un témoin qui a eu la chance ou le privilège de faire partie de la dernière promotion qui a eu Albert Kako comme professeur, avec en plus, à titre personnel, deux motifs de contact plus directs. Un de ces motifs était que j'ai été major de promotion pendant les 2 ans que j'ai passé à l'école, et je ne sais pas si la tradition se perpétue, il était en tout cas de mon temps de tradition que le major de promo recueille les observations de ses camarades et va voir le prof, les profs, pour leur dire il y a tel truc qu'on n'a pas compris, ici, pardonnez-moi, mais il y a une erreur de calcul, ou enfin, des choses comme ça. Alors, il est plus ou moins bien reçu. J'ai fait un peu ce métier. Kako est certainement celui qui m'a le mieux reçu avec le plus de simplicité, me disant je vais en tenir compte, vous avez raison, et je suis persuadé qu'il en a effectivement, il a modifié son cours de l'année suivante pour éviter les obstacles qui avaient été signalés par mes camarades de promotion ou par moi-même. J'appartiens à la promotion 47 spéciale de l'IX. Alors j'ai besoin de donner un mot d'explication là-dessus. On a cru bon de classer dans une promotion particulière, alors que les épreuves ont été les mêmes, la notation était la même, elle était tout aussi anonyme, etc. On a cru nécessaire de classer dans une promotion particulière ceux qui avaient fait la guerre, ou qui avait été retardé par des événements de guerre. Et c'est à ce titre que je suis entré à l'IX en 47 spécial. Là aussi, je suis major, mais d'une petite promotion de l'IX. Je ne suis pas le grand major de l'IX. Ma promotion de l'IX, alors la grande, celle-là, a préféré, je le signale, a préféré les ponts aux mines. Ça arrive. Normalement, les mines viennent systématiquement en tête. Là, dans ma promotion, il n'y a que Beaumont, le major, qui, à la suite d'une démarche personnelle du directeur de l'école des mines, auprès de lui, il est venu à l'IX lui rendre visite, etc., que Beaumont qui a pris le corps des mines, tandis que le numéro 2, le numéro Allais, le numéro 3, Alexandre, le numéro 5, etc., ont pris les ponts. J'ai entendu dire que les choses se dégradent actuellement et qu'il faudrait peut-être y remédier. J'ai donc eu cette relation privilégiée avec Albert Kako. J'en ai eu une autre, c'est que je lui ai demandé d'être mon parrain dans un travail de fin d'année, et qu'il a tout de suite accepté très gentiment, et qu'il m'a donné quelques idées dont j'ai toujours tenu compte, telles celles-ci qu'il faut exciter l'imagination intuitive. La première chose qu'il m'a dit, je me souviens, c'est qu'il faut faire une maquette. On va voir comment elle va se comporter. Autrement dit, c'est pas la mathématique intervient comme justification logique, mais en réalité, elle est orientée par l'intuition. Il a terminé son dernier cours d'une manière assez extraordinaire. Au lieu de nous parler de mécanique des matériaux, il nous a fait un cours sur ce qu'est l'ingénieur. On vient d'en parler. Et alors, il a apporté une réponse, parmi les réponses que vous avez données tout à l'heure. Cette réponse est la suivante. Alors, il a expliqué que l'objet n'existe pas, il naît, il germe dans l'esprit de l'ingénieur qui va le concevoir, qui va le vérifier, qui va le perfectionner, qui va le dessiner, le calculer. Et de rien au départ, simplement des neurones, on arrive à un ouvrage d'art, on arrive à un objet, à une mécanique, etc. Et alors, Albert Kako avait un crayon à la main Et il a terminé par cette phrase. Et alors, l'ingénieur, avec son crayon, il brandissait son crayon comme ça, est un dieu. Évidemment, nous nous sommes tous levés comme un seul homme et on a applaudi pendant au moins 5 minutes sans discontinuer. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Maillère, pour ce beau témoignage. Nous reviendrons vers vous pour des questions, sans doute, ensuite. Mais je vais maintenant donner la parole à Quentin Martin Laval, qui a eu la possibilité de créer une start-up qui est hébergée dans les murs de l'école. Je voudrais qu'il nous donne son témoignage sur la manière dont ce projet a germé, dont il a pu être mené en lien avec l'école, et peut-être aussi comment, peut-être nous parler de ce caractère un peu visionnaire à travers le projet qui a été mis en œuvre dans le cadre de cette start-up.
Donc, bonjour à tous. Je dois dire que la conférence qu'on vient d'avoir ce matin, c'est une conférence qui est très émouvante sur ce qu'on est en sortie d'école d'ingénieur et ce qu'on va devenir. Et du coup, ça a été un exercice que j'avais pas anticipé d'assister à ça, et j'espère que ça a eu cet effet sur un certain nombre d'entre vous de se dire, tiens, je suis rentré à l'école des ponts, pourquoi faire ? Donc je vais essayer de vous donner, du coup, à chaud, mon témoignage de qu'est-ce que ça veut dire faire la même chose au XXIe siècle, avec des moyens qui sont différents et un contexte qui est différent. La voie que j'ai choisie, puisque ça a été un choix à un moment, je suis rentré à l'école des Ponts et Chaussées avec un projet de faire de la lumière du jour en utilisant de la fibre optique, en se disant, derrière vous, vous avez un magnifique puits de lumière qui fait rentrer la lumière du jour. On s'est posé des contraintes architecturales pour arriver à faire ça. Est-ce qu'on ne sait pas déplacer la lumière ? Et la réponse est oui, évidemment, il y a de la fibre optique, vous l'avez tous étudié. C'est un tube de plastique ou de verre extrêmement simple. Et puis après, c'est comment est-ce qu'on le met en forme ? Et puis ça devient des espèces de panneaux qu'on place en toiture. Et donc tout notre savoir-faire est devenu de la conception de panneaux solaires qui ne sont pas électriques, mais qui sont lumineux. Donc ça, c'est ce qu'on a inventé. Et donc je suis arrivé à l'école des ponts avec ce projet-là, avec cette envie de concevoir, cette envie de participer à l'effort actuel qui est de dire on a un problème de développement durable sur cette planète, on a un problème de... Alors est-ce que c'est parce qu'on est trop nombreux, est-ce que c'est parce qu'on consomme trop ? Le fait est qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, sur la question énergétique en particulier. Et on a proposé cette solution et on s'est dit, elle n'existe pas, on est capable de la proposer. J'en ai parlé, je suis rentré au département génie mécanique et matériaux. J'en ai parlé à mon directeur de département qui m'a tout de suite encouragé dans cette voie. Et puis on a un petit peu adapté mon cursus de fin d'études sur cette direction où j'ai pu en particulier faire mon stage de fin d'études sur un projet directement lié au transport de la lumière. Et j'ai créé la société avec deux collègues à la suite. Et comme vous le disiez, la société aujourd'hui s'en sort très bien. Notre grande fierté, c'est d'avoir pu embaucher, là on en est à 4 employés, plus les 3 fondateurs, donc ça commence à être une jolie structure, et on est hébergé notamment au 4e étage de l'aile Belgrand de l'école des Ponts et Chaussées. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, on répondra à vos questions très volontiers. Pour ce qui est du métier d'ingénieur, ça a toujours été dans ma façon d'être entrepreneur, donc dans ma façon de créer finalement une entreprise, ça a toujours été mon point de départ. Je suis ingénieur avant d'être chef d'entreprise, avant d'être chef de projet, avant d'être... d'être même inventeur d'une technologie un peu délirante. Et il y a ce... Je voudrais quand même rester sur une échelle qui est celle de 2 ans d'expérience. Mais j'ai rencontré, au cours de ces 2 ans-là, cette notion d'être visionnaire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une vision du monde, on a une vision de l'objet qu'on a envie de créer, qu'on a voulu concevoir. Et cette vision-là, on la pose et on la défend. Et on la défend avec le langage de l'ingénieur. Regardez, si je fais un calcul énergétique de mon bâtiment, je m'en sors à peu près bien. Regardez, si je fais un calcul économique, je m'en sors aussi bien. Et puis après, j'arrive à orienter mon système avec des... on a des contraintes. Et la force de l'ingénieur, c'est de se dire, il y a des contraintes de vent en toiture d'un bâtiment, il y a des contraintes de neige, mais ce sont des contraintes et on sait y répondre. À une échelle qui sort de l'échelle de la start-up, je dirais que chacun d'entre nous va se positionner un peu avec ce côté inventeur. Et il est vraiment pas rare de rencontrer des ingénieurs qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont capables de dire « moi j'ai inventé telle chose ». Avec sa fierté, parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. On propose des solutions, on les pose, on les défend. Et donc je vous invite à prendre le temps de re-réfléchir à ce que vous avez entendu aujourd'hui.
Yann, merci beaucoup pour ce second témoignage. Le temps est venu en fait d'un débat avec vous tous. Vous avez certainement beaucoup de questions, tant à Antoine Picon, Thierry Kérizel, René Maillère et Quentin Martin Laval. Voilà.
Bonjour. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la création de votre start-up ?
Oui.
Mais lesquelles, plus précisément ? Pour nous donner un peu une idée de si on veut se lancer dans l'aventure.
Faut que je mette toute la liste. Je pense que pour se lancer, je vais répondre complètement à côté de la plaque. Pour se lancer dans l'aventure, il faut dépasser un certain blocage. Moi, ce blocage-là, ça a été de me dire, je suis jeune, j'ai envie de faire des choses de ma vie, je pourrais très bien choisir de faire un tour du monde quelque part. J'aurais pu choisir de. Voilà, il y a un moment où on cherche à se dire, qu'est-ce que je veux faire et de se dire, quand on sort d'études, on peut continuer à avoir un rythme de vie qui est celui de l'étudiant, et de se dire, pendant 2 ans, j'aurai pas beaucoup de revenus, j'aurai peut-être un peu moins de vacances, un peu moins de voyages. Et c'est peut-être, enfin moi, ça a été ça mon déblocage. Ensuite, les difficultés, on les rencontre partout. Ce qui est le plus important à souligner, ce sont les soutiens qu'on reçoit. Parce que des difficultés, vous en avez à défendre votre idée, à forger l'idée, puisqu'au début, on a une idée et elle est extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un tas de formes d'opposition, parce que dès que vous avez une idée, les gens aiment bien la challenger. Donc c'est, oui, mais ça s'est déjà fait à tel endroit, ça ne va pas marcher, ça peut... Donc on la forge et on la rigidifie, enfin, on la rend robuste, finalement, à son environnement, et ça nous aide, finalement, ça à la construire. Mais ce que je disais, c'est que ce qui est important, ce sont les soutiens. C'est de se dire, il y a un moment où si on m'avait obligé, ou si on ne m'avait pas écouté au moment de mon choix de fin de stage, donc de stage de fin d'études, et qu'on m'avait dit, écoute Quentin, il vaut mieux que tu finisses par, parce que moi je voulais faire du BTP à la base, va d'abord faire un stage chez Vinci, et puis tu verras ensuite si tu veux faire tes idées. Clairement, je ne crois pas que j'aurais créé ma boîte ensuite. Parce que je me suis retrouvé dans une situation où j'aurais découvert un autre métier, j'aurais oublié mon idée pendant 6 mois, et puis je m'en serais sorti avec une jolie proposition d'embauche dans un groupe sympa, et en face, un projet fou de repartir à zéro. Donc voilà, donc il y a un moment, et même à plusieurs moments, là je parle du soutien de l'école des ponts, parce que vous êtes là, et que j'espère pour vous que vous en bénéficierez le jour où vous le demanderez. Mais ça a été quelque chose de très fort et de très déclencheur. J'ai rencontré énormément de soutien également auprès de ma famille et auprès d'autres institutions qui sont là pour accompagner les entrepreneurs à de façon très proche, vous avez aussi un incubateur juste à côté d'ici, à la porte duquel certains d'entre vous ont déjà tapé pour dire ben, j'ai un projet, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux avancer.
Moi, j'avais une question concernant le rôle de l'ingénieur. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant que l'ingénieur devienne de plus en plus un technicien, de moins en moins un savant dans les formations? Enfin, moins axé sur la science, mais plus sur la technique appliquée. Plutôt à vous, en fait.
Je ne pense pas que l'ingénieur devienne de moins en moins un savant, parce que, je dirais, pendant très longtemps, d'une part, l'ingénieur n'était pas vraiment un savant, c'est-à-dire il appliquait, etc. Je dirais, ce que j'ai essayé de dire, c'est ce qui est devenu compliqué, c'est qu'il faut probablement à la fois être plus proche de la science encore que par le passé, et en même temps plus intuitif quant à la façon justement dont le monde économique marche, etc. Je dirais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a certainement beaucoup, beaucoup de choses à faire, on n'a jamais eu autant pour les ingénieurs, mais c'est compliqué, parce que effectivement, mais je ne pense pas que l'idée, c'est de dire la science, ça ne sert plus à rien. La science, c'est quand même aussi ce qui vous définit en tant qu'ingénieur. Mais il faut être capable, je dirais, le vrai défi, au 19e, on se disait, on applique la science. Et puis, il y avait des disciplines qui étaient des disciplines dites d'application. Je crois qu'aujourd'hui, on est face souvent à des espèces de courts-circuits dans lesquels vous avez la science et puis vous avez assez directement des applications industrielles, ce que j'ai appelé le mode B dans mon intervention. Et je pense que ça oblige à la part... Je dirais, d'une certaine façon, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir encore plus d'agilité intellectuelle qu'autrefois. Donc au travail, messieurs, dames.
Guerre civile 1956. Je voudrais, si vous le permettez, donner rapidement quelques mots de mes souvenirs du cours de M. Robinson en béton. C'était dans les années 55. On avait en projet, ou c'était déjà fait, d'élever le pont de Lafayette pour permettre le passage de canalisations électriques, caténaires, etc. Donc il y a eu un travail de levage de ce pont assez important. Vous connaissez ce pont sur la gare de l'Est. Et M. Robinson nous faisait remarquer, en ce sens, c'est pourquoi je me suis permis de demander le micro, il nous aidait à être encore plus visionnaires que M. Kako. Donc en 1928, Kako a fait ce pont, a conçu ce pont. Il est la traduction en béton armé d'un pont comme on en faisait en construction métallique. À l'époque, les règles de construction, c'était le règlement de 27. Monsieur Robinson a tiré notre attention sur le fait que ce serait une hérésie de continuer cette méthode consistant à remplacer les poutres varennes en acier, qui sont faciles à faire, par du béton coffré, ferraillé, etc. Et que l'avenir était une autre forme. Et le principal de nos cours, c'était effectivement des arcs, des poutres continues ou des ponts en béton précontraint. C'est un petit bémol simplement, ce n'est pas une critique, c'est pour montrer que dans l'école, on sait évoluer vers le futur. Merci.
Bonjour, c'est une question à l'intention de Thierry Kerizel. Je voudrais savoir si on peut faire un parallèle entre Steve Jobs dans le domaine informatique et Albert Kako dans le domaine du génie civil, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une différence fondamentale entre la mécanique et l'informatique ?
Donc, votre question, c'est est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Steve Jobs, bien connu dans le domaine de l'informatique, et Albert Kako, c'est ça, oui ? Bon, c'est une question un petit peu difficile. Je crois que Albert Kako, il était confronté au monde de son temps. Enfin, il a eu un domaine d'intervention qui a duré longtemps parce qu'il a eu une vie longue. Il a donné une solution au problème qu'il a rencontré à cette époque. Puisque vous évoquez Steve Jobs, je crois pouvoir dire qu'un de ses anciens élèves, donc dans le cours qu'il professait, l'ont entendu un jour, dans les années 40, évoquer quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qu'allait être l'informatique. Il a en quelque sorte annoncé l'informatique. Bon, mais encore une fois, bon, je crois que il a donné une réponse aux problèmes qui lui ont été posés par la société. Chacun doit s'adapter à son temps. C'est ce que vous a expliqué aussi Albert Picon. Il faut être à l'écoute des besoins de la société.
Ma question s'adresse à donc Antoine Picon. Donc on parle fréquemment des énormes promotions d'ingénieurs qui sont formés chaque année dans des pays comme la Chine donc, ou l'Inde. Donc, et avec effectivement une accélération très forte effectivement, de changement. Est-ce que par rapport au type de questions ou de problèmes qui ont pu se poser dans une longue durée telle que vous avez présentée, est-ce qu'il y a une certaine parenté partielle dans ce type de situation effectivement, asiatique, ou est-ce qu'il y a vraiment de grandes différences dans les évolutions par rapport aux principaux thèmes que vous avez abordés?
C'est comme Steve Jobs. Je vais dire une banalité déjà pour commencer. Je pense qu'il y a quand même une rupture d'échelle. Il faut quand même être clair. Il y a eu une rupture d'échelle déjà au XIXe siècle avec les États-Unis. L'exemple que je donne tout le temps, c'est Paris met quand même plusieurs siècles à passer de quelques dizaines de milliers d'habitants à plusieurs millions. Chicago met à peu près un demi-siècle. Donc Chicago, c'est pour le XIXe siècle l'équivalent de ce que sont aujourd'hui les métropoles asiatiques. Les métropoles asiatiques, c'est un espèce de nouveau saut d'échelle. Donc je pense qu'on est quand même face à des échelles dont on n'avait pas l'habitude, quand même clairement. Cela dit, ce qui donne quand même, c'est quand même le fait que l'Asie se forme encore beaucoup en référence à des méthodes, etc. Mais il est clair, par exemple, qu'on est face, encore une fois, à des échelles dont on n'a pas l'habitude. Curieusement, en tant qu'historien, j'aurais plutôt tendance à ménager la possibilité qu'il y ait des choses nouvelles et que tout ne se répète pas. Donc je pense qu'on va probablement, je pense que ça va poser, il faut quand même être clair, un établissement comme l'École des Ponts. Vous allez être beaucoup plus internationaux que bon, moi, je suis rentré à l'École des Ponts en 79, donc vous voyez, je commence déjà à être un animal usagé. À l'époque, on était encore très peu tourné vers l'international par rapport à aujourd'hui. Donc vous allez être, en fait, la vérité, c'est que vous allez être en compétition avec des quantités de gens absolument phénoménales. Indiens, Chinois, il y a les Coréens, il y a beaucoup de monde, et je dirais la compétition, effectivement, elle est devenue mondiale. Ça aussi, c'est quand même relativement nouveau.
Oui, moi, je voulais revenir un instant sur la question sur Steve Jobs qui me parle. L'impression que j'ai eue en écoutant Antoine Picon et en écoutant Thierry Kirizel, c'est qu'on peut faire un parallèle, effectivement, entre un Steve Jobs et un Albert Caco, des problèmes de nature assez variés. Une application d'une vision très très forte de « on veut faire quelque chose dans des domaines aussi variés dans le cas de Steve Jobs que le PC, l'iPod au début, puis qui est devenu l'iPhone, l'iPad, iTunes, l'App Store ». Je dirais c'est assez exceptionnel de voir la puissance d'une vision qui s'applique à différentes disciplines où personne n'aurait imaginé qu'on puisse faire des transversales. Dans l'œuvre d'Albert Caco, c'est à peu près la même chose qui me frappe, au bémol près évidemment de l'époque, et ça revient bien sur ce que disait Antoine Picon sur les qualités de l'ingénieur, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur, à quoi ça sert?
Si je peux juste me permettre, et là aussi il y a quelque chose de nouveau, je pense qu'il y a effectivement quelque chose de visionnaire chez les deux, même si ce n'est pas le même type de vision, il y a quand même quelque chose de nouveau, et auquel vous allez être confronté, c'est que Steve Jobs, c'est un grand communicant. Je dirais Caco, il était encore dans une société dans laquelle les canaux de communication étaient très institutionnels, rentrait dans le corps des ponts, rentrait dans l'académie, etc. Il y avait des canaux qui étaient préformatés. Aujourd'hui, et ça va être un problème pour vous aussi, il ne faut pas vous le cacher, la nécessité de communiquer, c'est quelque chose, je pense que pour un jeune entrepreneur, c'est aussi quelque chose d'absolument crucial, il faut communiquer très tôt, et ça concerne aussi les ingénieurs. Alors traditionnellement, on laissait parler des tas d'autres personnes, donc là aussi, pour replaider à nouveau pour ma chapelle, je pense que l'intérêt des sciences sociales et des humanités dans une école d'ingénieurs, c'est aussi de commencer un peu à vous faire réfléchir à ces problèmes-là, parce que la communication, ça devient aussi partie de la technique, aujourd'hui.
Vous avez tous beaucoup parlé de la créativité et je me demandais, pour un ingénieur qui va en entreprise,
Est-ce que, notamment dans les grands groupes, elle n'est pas un peu brimée par des contraintes diverses et variées? Donc ma question porte un peu sur la place de l'ingénieur quand il s'engage dans une grande entreprise, et notamment là sur les exemples qu'on a vus, soit Kako, soit Steve Jobs, c'était des gens qui... Enfin, en tout cas, Steve Jobs, il était assez marginal, il a travaillé un peu dans des startups, il n'a pas été confronté à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, dans des entreprises, on peut encore exprimer pleinement sa créativité? Je ne sais pas à qui poser la question, parce que vous en avez tous parlé.
Historiquement, en tout cas, il y a eu toute une série. Par exemple, prenez les grands constructeurs, etc. Il y a eu beaucoup d'ingénieurs d'entreprise. Donc, la réponse, je dirais, bon, je crois que ce que j'ai retenu tout à l'heure, il faut quand même un peu se battre pour être créateur. Et c'est jamais simple, parce qu'imposer une vision, une nouvelle, ou Dieu sait quoi. Donc, effectivement, c'est pas donné. Mais bon, en tout cas, historiquement, il y a eu beaucoup de grands constructeurs, etc., qui ont été en entreprise. Et en fait, même Freycinet, il a commencé en travaillant pour une entreprise qui s'appelait Limousin. Il était ingénieur, en fait, d'une entreprise de construction. Et ça l'a pas empêché de développer un certain nombre de techniques très innovantes pour l'époque. Donc, oui et non, mais c'est toujours une bagarre.
Je me permettrai de compléter la réponse. C'est qu'évidemment, les gens qu'on pointe du doigt, ce sont ceux qui ont fait les carrières les plus extraordinaires. Et ça, il y a toujours une part, un moment où la réputation prend le dessus. Et où donc les problèmes sont posés certainement spécifiquement à la personne parce qu'elle a cette renommée-là d'être un menteur. Ceci étant... mon avis, je pense, enfin, ça reste mon avis, mais c'est aussi ce que je peux voir avec les collègues qui sont déjà rentrés en entreprise, c'est que le problème de l'ingénieur est systématiquement créatif. Parce que le problème de l'ingénieur, c'est de se rendre compte qu'à un problème donné, il existe 4, 5, 6 solutions, et c'est de choisir quelle est la bonne. Donc le défi de l'ingénieur, c'est d'identifier ces 6 solutions et puis d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi la bonne. Donc il y a systématiquement de la créativité, et puis par moment il y a de la difficulté parce que la 7e méthode est hors du commun, parce qu'elle prend en compte l'usage de béton précontraint ou même de béton armé, alors que ce n'est pas du tout la période, parce qu'elle propose un choix d'usage d'un nouveau matériau, ça vous allez le rencontrer tous. À l'école des ponts, vous découvrirez des matériaux qu'on n'utilise pas en industrie parce que c'est matériaux moins de 20 ans. Et ces matériaux-là, c'est à votre rôle de dire, bah, écoutez, moi j'ai rencontré en école une façon d'utiliser le carbone ou tel nanomatériau ou tel matériau. Et je pense que dans cette application-là, on peut gagner telle performance. Et là, ce sera une part de créativité et ce sera un défi d'apporter cette nouvelle chose. Donc je pense que, enfin, moi je suis convaincu qu'elle est liée systématiquement, qu'on soit dans un grand groupe, dans un moins grand groupe, et si c'est pas de la créativité technique, ce sera de la créativité managériale, ce sera de la créativité en méthode de production, ce sera de la... Donc c'est à vous de mettre ce point d'honneur à ne pas forcément faire exactement comme on faisait systématiquement avant, et de vous poser les bonnes questions par rapport à votre bagage.
Bonjour. J'aurais juste une question. Vous avez parlé du fait que le statut d'ingénieur ait beaucoup évolué ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que le statut est fixé maintenant ou qu'il va encore beaucoup évoluer?
Je crois qu'il ne sera jamais fixé. Il ne sera jamais fixé parce que l'ingénieur, quand même, ultimement, c'est un médiateur. C'est un médiateur, malgré tout, entre la science et puis les matériaux, entre la société, etc. Ce que j'ai essayé, au contraire, de vous dire, c'est qu'à quasiment toutes les époques, alors on peut rêver que ça va être réglé, mais en fait, c'est pas réglé parce que c'est une profession dynamique. Je dirais que c'est plutôt ça, d'ailleurs, qui la rend marrante. C'est-à-dire que c'est une profession en fait qui a énormément bougé depuis ses lointaines origines à la Renaissance et qui va encore bouger. Je pense en plus qu'on est dans une phase plutôt d'ailleurs où les choses vont aller vite pendant encore un certain temps. Bon, on mentionnait l'Asie, la formation va se modifier. Bon, on parle beaucoup par exemple de réintroduire plus les démarches de projet. Plein de choses vont bouger dans les décennies qui viennent. Donc je crois qu'on est plutôt dans une phase où ça va bouger assez vite.
Je suis Alain Bardy, je suis la promotion 67, C'est-à-dire qu'il y a exactement 50 ans, j'ai entré dans cette école, de Saint-Père, évidemment. Donc je voulais vous apporter un petit message d'espoir et de vous rassurer. Les choses ne seront pas fixées. Vous aurez beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de débats internationaux. Mais je peux vous assurer que 50 ans après, vous aurez passé une belle vie si vous avez su vous adapter et profiter de tout ce que l'école vous apporte et de tous les métiers que vous pouvez faire au nom de tous les camarades que j'ai encore, là, on va se retrouver la semaine prochaine tous ensemble. Donc 50 ans après, on a tous eu une très belle vie professionnelle et vous en aurez une encore plus variée, encore plus merveilleuse. À vous de la saisir. Bonne chance.
Je pense que nous pourrions peut-être conclure sur ce message d'espoir du cinquantenaire. Voilà, alors, merci à nos quatre intervenants de la matinée. Nous invite un cocktail qui se tient en salle polyvalente. Voilà.